Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Brice, qu'on retrouve aujourd'hui par téléphone. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Samedi, Brice, élection à Taïwan. Tsai Ing-wen a été reconduite au pouvoir avec une forte majorité, 57% contre 38% à son challenger Ahn Kyi-yu du Kuomintang. Quelle leçon peut-on en tirer, Brice?
Eh bien, comme l'écrit Rush Doshi dans Foreign Affairs, entre ces deux candidats, il y en avait un troisième, le Parti communiste chinois sur le continent, qui a soutenu fortement le candidat du Kuomintang. En vain, puisque celui-ci a perdu dans les urnes. Mais les démocraties à travers le monde entier devraient regarder avec beaucoup d'attention ce qui s'est produit durant la campagne électorale à Taïwan, écrit-il, car leurs propres médias pourrait bien connaître des manœuvres comparables à celles que la Chine y a mises en œuvre pour tenter d'obtenir un résultat électoral favorable à ses intérêts. Pékin a en effet déployé à Taïwan, à l'occasion de ces élections, je cite, une stratégie sophistiquée destinée à influencer chaque étape de la chaîne de production d'informations, depuis les journalistes y fournissant sa matière première, des contenus, jusqu'aux plateformes qui les disséminent, en passant par les sociétés de médias qui les contrôlent. Alors pourquoi le Kuomintang, adversaire historique des communistes chinois, est-il devenu, paradoxalement, le chouchou des dirigeants chinois actuels à Pékin? Eh bien, pour une raison simple, c'est un parti nationaliste. Il considère que l'île de Taïwan fait partie de la Chine et doit donc s'unir avec elle. Ses dirigeants ont renoncé depuis longtemps à l'objectif que s'était fixé Chiang Kai-shek en 1949, lorsque, vaincu par les communistes de Mao, ses troupes s'étaient réfugiées dans l'île, la reconquête de la Chine continentale. Le Parti démocratique progressiste de Tsai Ing-wen, au contraire, entend conserver l'autonomie politique dont jouit de facto Taïwan, parce que c'est la condition pour que l'île continue à vivre en démocratie. Et les événements de Hong Kong ont démontré aux Taïwanais qu'on ne pouvait pas faire confiance à Pékin pour respecter les acquis démocratiques d'un territoire recouvré par la Chine. Si Pékin mettait la main sur l'île rebelle, comme elle menace de le faire avec régularité, elle ferait l'acquisition d'une des économies les plus prospères de la planète, grande productrice de ces semi-conducteurs dont la Chine a un besoin urgent du fait des restrictions commerciales américaines. Et puis surtout, elle pourrait transformer l'île entière de Taïwan en un porte-avions avancé en mer de Chine, à l'image des îlots récemment militarisés par Pékin. Alors, afin d'influencer ces élections taïwanaises, la Chine a d'abord utilisé la menace. Souvenons-nous, en 1995 et 96, du lancement de missiles dans les eaux taïwanaises pour tenter de dissuader les électeurs de reconduire au pouvoir le président Lee Teng-hui. Le résultat fut inverse à l'époque. Indignés plus qu'effrayés, les Taïwanais réélirent Lee. Mais cette fois, ce sont ces énormes moyens d'influence que Pékin a choisi de mettre en batterie, une fois encore, sans obtenir le résultat escompté.
Une guerre de propagande, Brice, pourtant massive.
Eh oui, première observation, pour les dirigeants communistes chinois, l'information n'est pas neutre. Elle ne saurait être objective, et ils le proclament. C'est un des champs de bataille sur lequel se livre la lutte pour le pouvoir. Il s'agit de contrôler, je cite, le discours public afin de l'orienter en faveur du pouvoir et des intérêts chinois tels qu'ils les apprécient. Premier étage de la chaîne, les créateurs de contenu. Chaque année, la Chine invite un grand nombre de journalistes taïwanais à des séminaires. Ceux qui se montrent les plus complaisants sont récompensés. Les plus critiques subissent des campagnes d'intimidation, harcèlement sur les réseaux sociaux, menaces, voire procès en diffamation. Deuxième étage, Pékin a utilisé les liens commerciaux noués avec Taïwan pour investir dans ses groupes de médias. Il peut ainsi influencer des publications, des sites, des chaînes de télévision et de radio. Leurs responsables sont requis de coordonner leurs commandes d'articles ou de reportages directement avec le Bureau des affaires taïwanaises en Chine. Les articles concernant les violations des droits de l'homme en Chine sont déconseillés. Les entreprises taïwanaises, réalisant une partie significative de leur chiffre d'affaires sur le continent, sont fermement invitées à acheter des espaces publicitaires aux médias sous contrôle. Enfin, sur les réseaux sociaux, une véritable armée de bots est à l'œuvre, disséminant de fausses informations. Il s'agit non seulement d'attaquer la présidente Tsai et son parti, mais de provoquer la polarisation afin de fragiliser la démocratie taïwanaise. Alors vous me direz, cette fois, certes, Pékin a raté son coup, le public a appris à repérer les fake news, il sait en gros quels sont les médias qui demeurent indépendants et ceux qui sont sous contrôle. Mais le monde entier doit prendre garde à ce qui a été expérimenté par la Chine à Taïwan, car dans d'autres régions du monde, et en particulier en Amérique latine et en Afrique, les mêmes méthodes sont à l'œuvre. Journalistes invités en Chine, tout frais payés pendant un mois, participation financière à des groupes de presse en difficulté, accords de coproduction, achat d'espace publicitaire. Et nous aurions tort, nous, en Europe, de nous croire à l'abri. Le contrôle de nos moyens d'information par des puissances étrangères n'est pas un mythe.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.